enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Épître de Jacques. L'Épître de Jacques. Jacques, chapitre 4. En rentrant, on vous a donné un sourire, une poignée de main. Non, vous ne l'avez pas eu, vous n'avez pas droit à un sourire en rentrant. Et on vous avait aussi un bulletin. Sur ce bulletin, vous avez le plan de la prédication de ce matin. Et ça vous donne aussi l'opportunité de prendre quelques notes. Si vous n'avez pas de stylo, parce qu'il va y avoir des blancs à remplir, levez la main et les préposés à l'accueil feront un plaisir de vous prêter un stylo. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un stylo pour écrire la première phrase? Regardez, Jacques 4, 7. Résistez au diable et il, loin de vous, et il, vous êtes sûr? Jacques, chapitre 4, verset 7. C'est le sujet de la prédication ce matin. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que le diable est capable de fuir devant vous, mes amis? Oh, est-ce que c'est trop impressionnant comme tâche? En tout cas, l'apôtre Jacques nous écrit et nous dit « Résistez au diable ». Et c'est officiel, il fuira loin de vous. C'est une promesse de la parole de Dieu et nous allons essayer de comprendre un petit peu ce que cela représente et comment ça fonctionne. Déjà, la première question qu'on va se poser ce matin, on parle de combat et de dire, bon, ben, s'il faut lutter, s'il faut combattre contre le diable, c'est quoi cette affaire? Quel est le bon combat? L'apôtre Paul peut dire, à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Mais c'est quoi ce combat? Alors, excusez-moi de rentrer dans un peu de vocabulaire technique, mais vous avez toutes les notes pour y réfléchir durant cette semaine. Mais c'est intéressant d'aller voir de près le vocabulaire qui est utilisé. Parce que quand nous avons le mot « combat » dans la Bible, il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mots grecs différents derrière ce mot « combat ». Et un des premiers mots grecs qui est derrière ce mot « combat », c'est « stratéomai ». Amen. Alléluia. C'est donc un mot qui signifie un combat, mais un combat militaire. Une lutte, un combat, une guerre. Et quand on parle de combat et quand on parle d'ennemis, d'adversaires, vous savez que vous avez un ennemi, un adversaire, et on parle de combat. Et quand on parle de combat spirituel, est-ce qu'il est question ici d'un combat militaire? Est-ce qu'il est question de guerre? Est-ce qu'il est question de... Bon, vous avez les références dans lesquelles ce mot stratéomai qui parle de combat, de guerre, est utilisé. Vous avez un autre combat, c'est un autre mot qui est utilisé pour le mot combat, c'est poléomo, qui a donné polémique. C'est un combat, une polémique? Non? Il n'y a jamais de polémique chez vous? Alors là, c'est un autre combat, c'est se battre, continuer la guerre. Ce n'est pas donc commencer une guerre, mais c'est persévérer dans cette guerre, continuer une guerre, disputer. Machomai, se bagarrer, se battre, combattre, disputer. Et vous avez différents versets, ce mot a été traduit souvent aussi par querelle. Et avec ce même mot, machomai, vous avez théomachos, c'est se combattre contre Dieu. Vous avez la thériomachéo, c'est combattre contre les bêtes. Vous avez la tauromachi, combattre contre le taureau dans l'arène. C'est ce même mot qui est là. C'est ce combat-là. Vous avez ensuite un autre mot, agonizomai, qui est entrer en compétition, lutter dans des jeux sportifs, faire face aux adversaires. Donc là, c'est vraiment combattre selon des règles et comme dans des jeux sportifs. Mais agonizomai, vous reconnaissez un mot en français ? Agoniser. Et le mot combat, agon, agonie, agon, est utilisé 6 fois, le mot combat. Et un autre mot pour combattre, c'est athléo, athlète, athléo. Donc là, c'est vraiment le combat olympique des athlètes. C'est engager une lutte, lutter dans des jeux sportifs, lutter pour un prix, pour une médaille, concourir. Et donc, dans les différents passages du Nouveau Testament où l'on trouve le mot combattre, il y a tous ces mots grecs qui sont derrière. Et comprenez que la plupart des mots, à l'exception de stratéomai, la plupart des mots parlent de combat, de jeu sportif, de lutte. Prenez 1 Timothée 6:12, combat, le bon combat, le bon combat. Et c'est quoi le mot qui est derrière ce bon combat? C'est agon, la bonne agonie. Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Dans 2 Timothée 4:7, il dit « J'ai combattu le bon combat, agon, le bon combat ». Et pourquoi l'apôtre Paul insiste sur le bon combat? Parce que s'il y a le bon combat, il y a aussi le mauvais combat. Et on peut se battre contre des chimères, contre des moulins à vent, si vous connaissez Don Quichotte. Vous avez entendu parler de Don Quichotte? Non? On va se battre contre des moulins à vent. On va se battre contre toutes sortes de choses qui n'est pas le bon combat. Nous devons être dans le bon combat. Le combat de Jésus. L'agonie de Jésus. À Gethsémané. Gardez cela en votre esprit. On va y revenir dans quelques instants. Jésus a combattu. Et c'est ce mot, le combat de Jésus. L'agonie, agone. Agonizomai, à Gethsémané. Dans 1 Corinthiens 9:25, il est dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Tous ceux qui combattent, et là le mot qui est utilisé c'est « agonizomai », tous ceux qui combattent jusqu'à l'agonie, s'impose toute espèce d'abstinence. Et dans cette déclaration, maintenant, il y a 2 mots à remplir. Le combat, et c'est la conclusion qui m'est apparue comme évidente en étudiant ce vocabulaire, puis on ne va pas y passer la matinée là-dessus, mais le combat contre notre adversaire, le diable, est une lutte. Le combat contre notre adversaire, le diable, c'est une lutte. La guerre a été terminée à la croix. Et là, je vais peut-être renverser certaines conceptions religieuses ou spirituelles. C'est vrai que, vous savez, il y a des modes dans les églises. Il y a quelque temps, il y avait une mode concernant une surémotivité avec le Saint-Esprit. Non, on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas si longtemps, on est encore peut-être dans la fin de cette mode, une mode concernant le combat spirituel. Guerrier de Dieu. Warrior for God. Hein? Soldier for God. Il n'y a pas des jeunes qui avaient des trucs autour du cou, là? Il y a marqué, on est GI for God. On est dans l'armée de Dieu. Et puis on va combattre. On est des soldats, on est des vainqueurs, on est les forces spéciales pour l'armée de Dieu. D'accord? Non? Est-ce qu'il n'y a pas une mode comme ça, si vous allez dans une librairie chrétienne, le nombre de livres, vous aurez comme première page ou une jaquette, vous allez avoir un soldat avec une épée, vous allez avoir toutes sortes. Et on parle de guerre spirituelle, de combat spirituel, et c'est une thématique qui revient souvent ces derniers temps. Non? Allô? Mais la guerre est finie! Il n'y a plus de guerre! Comment ça, il n'y a plus de guerre? Non, il n'y a plus de guerre. Si on regarde le vocabulaire biblique, nous ne sommes pas en guerre contre le diable. Et heureusement, mes amis, est-ce que vous voyez en face du diable, hein, faites le poids. Allô? La guerre est terminée. Jésus a vaincu la guerre. Le diable a été cloué, anéanti. Il a été dépouillé, livré en spectacle. Il est vaincu. Et nous n'avons pas aujourd'hui à essayer de remporter une guerre contre le diable. La guerre est terminée. Et elle s'est terminée quand? À la croix. Elle s'est terminée à la croix. Le diable est déjà vaincu. Le combat contre notre adversaire est une lutte. C'est pas une guerre. C'est une lutte. Et le mot lutte qui est utilisé, si on fait référence aux athlètes, si on fait référence aux pugilats, si on fait référence à la lutte grecque, là, au combat, mais à cette lutte, c'est une lutte qui se fait selon les règles. Et quel est le but de la lutte? De remporter le prix. Il ne s'agit pas de remporter la guerre, il s'agit de remporter le prix. Le diable veut nous mettre à terre. Le principe de la lutte, c'est d'arriver à mettre son adversaire à terre, le terrasser, pour qu'il ne bouge plus et qu'il n'avance plus, qu'il ne marche plus. Le diable aujourd'hui n'a pas de guerre à remporter. Son sort est déjà accompli. Le but du diable aujourd'hui est de mettre à terre et d'empêcher les chrétiens d'avancer, de faire l'œuvre de Dieu. Et il y a là une lutte et non pas une guerre. Peut-être certains vont dire, mais vous jouez sur les mots. Vous allez comprendre que c'est important. Connaître son adversaire, deuxièmement. L'apôtre Pierre nous dit, veillez votre adversaire, le diable. Le diable, c'est notre adversaire. Et il faut connaître notre adversaire. Quand l'équipe de l'OM est allée battre, est allée jouer contre Paris Saint-Germain, là, ils ont perdu. Le gros mari qui a fait 3 jours de sac et de cendre. Et dans des matchs sportifs, où il n'y a pas des Canadiens qui ont joué aussi. Ils ont eu du mal aussi, hein, je crois. Hein. La première chose, on étudie son adversaire. Mais comprenez que, en ce qui nous concerne, si on comprend qu'on n'est pas dans une guerre, il ne s'agit pas d'aller essayer de comprendre les forces armées du diable. Ce n'est pas la peine. C'est déjà fini. Pas essayer d'aller comprendre les points forts, les stratégies, les ruses. Vous savez, il y en a, ils sont intéressés, avides. Et peut-être que quelqu'un ce matin sera déçu parce que je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là. De vous dire, je vais vous expliquer par A et par B comment fonctionne le diable, comment, où il habite, comment est son antre, comment est sa tanière et sa demeure, comment il fait pour détruire, égorger, quelles sont ses stratégies, ses tactiques de combat. Vous savez, comme si on était attiré par ces choses. Mais on n'a pas à considérer ces choses ce matin. La seule chose qu'on doit savoir, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que notre adversaire est déjà vaincu. Pas la peine de savoir comment il fait pour se battre. Notre adversaire est déjà vaincu. C'est pas la peine d'essayer de comprendre quel est son maniement de l'épée. Notre adversaire est déjà vaincu. Est-ce qu'on a conscience de ça? Il est déjà vaincu. Est-ce qu'on le sait bien ce matin? C'est pas la peine d'essayer de savoir quelle est sa botte secrète. Vous savez, quand on fait les cartes et d'épée, la botte secrète pour arriver à... Non, c'est pas la peine d'essayer de comprendre ces choses-là. Il est déjà vaincu. Regardez dans Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Notre adversaire est déjà à terre. Est-ce que vous vous souvenez du jeune David? Ce jeune berger, David. Son père l'envoie en mission amener des vivres à ses grands frères qui, eux, sont des grands gaillards solides et qui sont à la guerre et qui sont dans l'armée du roi Saül. Et voilà que les Philistins sont de l'autre côté de ce champ de bataille et qu'il y a un géant, Goliath, qui vient défier l'armée de Dieu. Et pendant 40 jours, chaque matin, ce géant vient devant l'armée de Dieu en disant « Envoyez-moi un homme ». Qui sera capable de se battre avec moi, et l'issue de la bataille dépendra de ce combat. Plutôt que de sacrifier de nombreux soldats, que tout se joue sur une lutte. Et personne n'osait aller combattre ce géant Goliath. Quand David est arrivé, David, son sang n'a fait qu'un tour en lui, quand il dit, mais qui c'est ce Goliath là? La curiosité de David n'a pas été de dire combien il mesure exactement. C'est important de savoir combien il mesure exactement. Je ne veux pas me tromper d'un pouce, d'une pomme ou d'un pied. Combien il mesure exactement? Quelle est sa taille? Quelle est sa stratégie? Comment est-ce qu'il procède? Avec quelle arme il est le plus habile? Est-ce qu'il est plus habile avec son épée ou avec son javelot? David n'en sait rien et il ne veut pas le savoir. David ne se dit pas « je veux savoir si Goliath est droitier ou gaucher » parce que ça fait toute une différence. Je veux savoir si Goliath il manie l'épée à une main ou à deux mains parce que dans le combat ça fait toute une différence. Je veux savoir si Goliath, son bouclier, il l'utilise en défense, en attaque. Est-ce qu'il a une épée cachée dans sa chaussure? Comment ça fonctionne avec ce Goliath? Comprenez que David, ça ne l'intéresse pas. Mais s'il avait fallu rentrer dans une guerre, dans une lutte, dans un combat avec ce Goliath, eh bien, l'homme de guerre par excellence aurait voulu tout avoir comme information concernant le Goliath. Et voulu savoir exactement qui l'a formé, quelles sont ses stratégies, ses tactiques de combat, comment est-ce qu'il procède, est-ce qu'il donne des coups de pied, est-ce qu'il tord le nez avec sa main gauche pendant qu'il chatouille avec le bras droit. Comprenez qu'il y a toutes sortes de tactiques de combat. Mais David, ça n'intéresse pas. David, il sait une chose. Goliath, tu es déjà un homme mort. Vous me suivez? David ne se dit pas « comment je vais m'y prendre pour combattre ?» David dit « c'est l'Éternel qui combat pour moi. » Et vous comprenez qu'en ce qui nous concerne, si nous avons là une lutte à faire avec l'adversaire, la question n'est pas de savoir comment le diable combat, si c'est avec la main droite, avec la main gauche, si c'est à deux mains, s'il a un couteau caché quelque part, s'il a des petites ruses de combat, ça c'est pas important. Dieu est celui qui combat. Et le combat est déjà fini. La guerre est déjà terminée. David, lui, il court devant Goliath avec une fronde et un bâton. Goliath le méprise en disant « Mais tu me prends pour un chien à venir comme ça, tu n'as même pas d'armure, tu n'as même pas d'épée. Où est ta stratégie militaire ?» David dit « J'en ai rien à faire de stratégie militaire. Moi, je sais une chose. » C'est que tu vas mourir dans pas longtemps. Est-ce que vous me suivez? Le diable peut nous impressionner en disant « Quelle est ta force? Quelle est ta stratégie? Quelle est ta méthode ?» Mais David peut dire « Tu as insulté Goliath, le nom de l'Éternel des armées. Et c'est au nom de l'Éternel des armées que je viens devant toi. » Et David court, il court, hein, devant Goliath. Et il aura fallu seulement d'une pierre, oh, par rapport à Goliath, une petite pierre, qui va arriver juste dans le front de Goliath. Goliath va être à terre, et quelques minutes plus tard, il n'a plus la tête sur les épaules. Qui aurait pu dire que le combat allait se terminer ainsi? Qui aurait pu dire que ça allait se produire ainsi? David n'a pas besoin de connaître Goliath. David a besoin de connaître qu'il est déjà vaincu. et que Dieu est avec lui. En ce qui nous concerne, on n'a pas besoin de connaître toutes les ruses du diable. On a besoin de savoir une chose. Il est déjà vaincu. David, avant de combattre Goliath, avait combattu le lion et l'ours. Vous vous en souvenez, si vous avez lu ces récits, dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, 17, David avait déjà combattu contre le lion et l'ours. Je ne pense pas que David était un expert en ce qui concerne les ours. Mais il savait une chose. « Hé, toi, tu pars pas avec la brebis. Elle m'appartient. » Qu'importe ta taille, qu'importe si c'est un ours brun, noir, un grizzly ou un je sais pas quoi. Qu'importe. Non? Si vous avez un animal féroce qui met en danger quelqu'un que vous aimez, vous allez dire, c'est quoi donc comme animal ça? Vous savez, quand on rencontre un serpent en France il y a quelques serpents, on est là en disant, voyons voir ce serpent, est-ce qu'il a la tête en forme de triangle ou pas? Alors c'est important, parce que c'est comme ça qu'on va savoir si c'est une vipère ou une couleuvre. Je ne sais pas si vous avez ça au Québec. Parce que si c'est une couleuvre, ça va, on ne risque rien. Si c'est une vipère, aïe, 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 c'est mortel. Vous me suivez? Alors quand on voit l'animal, est-ce que la première question qu'on se pose, c'est quel est ce genre d'animal? Que ce soit une vipère ou une couleuvre, tant pis pour toi. Vous me suivez? Parce qu'on dit, ah oui, mais si c'est une vipère, on va avoir du mal. On était allé, je me souviens quand on était en voyage de noces avec mon épouse au Sénégal, en Afrique, on était allé voir une famille de Canadiens. Il y avait des Canadiens missionnaires qui étaient en Afrique, là-bas au Sénégal, et ils étaient dans la brousse, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, et puis ils nous racontaient que... il avait des lunettes, mais il avait cassé ses lunettes, il n'avait plus de lunettes. Et puis il y avait des serpents qui étaient dans la cour, puis il allait avec le bâton, puis il disait, je vois pas où il est, dis-moi où il est, je frappe là. Et puis c'était les autres, non, non, mais attention, puis dit, non, non, j'y vais, je frappe. Il ne voyait pas trop ce qu'il frappait, il ne voyait pas trop où c'était, mais lui dit, il n'a rien à faire là, ce serpent, et puis il faut le mettre à terre, il faut le terrasser. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que nous, on a cette témérité? Ou alors est-ce qu'on veut tout savoir, tout connaître? Et je suis sûr que s'il y avait une encyclopédie qui pouvait s'écrire sur le diable, avec comment il fonctionne, qui il est, quelles sont ses stratégies, ça va intéresser tout le monde. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce qui doit nous intéresser ce matin, il est déjà vaincu. Souvenez-vous de David, qu'importe comment Goliath combat, il est déjà vaincu. Regardez ce que dit 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia, béni soit Dieu, car il nous fait toujours triompher en Christ. » Il nous fait toujours, pas de temps en temps. Il nous fait toujours triompher. Et ce verbe triompher fait référence là, oui, au triomphe militaire de l'empereur qui rentre de sa campagne avec son ennemi à ses pieds. Il est terrassé, il a le pied sur le cou de son adversaire, montrant que l'adversaire est à terre et à sa merci. De la même manière, Dieu nous fait triompher. Nous avons notre adversaire à nos pieds. Est-ce qu'on en est conscient? Il est déjà vaincu. Le combat n'est pas une guerre. La guerre a déjà eu son issue à la croix. Et c'est important de réaliser qu'à la croix du calvaire, s'est passé des choses extraordinaires, phénoménales, qui ont bouleversé tout le fonctionnement de l'univers. Est-ce que vous avez lu dans Matthieu que à la croix, alors que Jésus, l'un, agonise, eh bien, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Voile du temple s'est déchiré. Il y a eu là toutes sortes de phénomènes parce que s'est passé quelque chose de gros. Le diable a perdu la bataille ultime. Maintenant, en ce qui nous concerne, il nous est dit que le diable est notre adversaire. Donc, on a toujours un adversaire. Et qu'il doit, et qu'on doit être prudent, on doit veiller. Votre adversaire, le diable, rôde. Il est dit aussi, on a commencé avec ce verset de Jacques, chapitre 4, verset 7, il est dit de résister au diable. Et notez bien que résister, ce n'est pas frapper. Est-ce que vous voyez la nuance, la subtilité? Il s'agit de résister au diable, et on va y venir. Donc, comment combattre? Troisième point, comment combattre? Évidemment, lorsqu'on parle du combat spirituel, on fait toujours référence à Éphésiens 6. Mais regardez bien, car nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter. Il ne s'agit pas ici de combat guerrier, il s'agit de lutte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lutter. Un combat, en grec ici, un combat dans lequel chacun essaye de désarçonner l'autre. Le combat est remporté quand le vainqueur peut maintenir son adversaire au sol en lui mettant la main sur le cou. Il ne s'agit pas d'une guerre, et là vous pouvez mettre le mot guerre à la place du vide, il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'une lutte. Et j'insiste dessus, et ça vaudrait la peine de le méditer, il ne s'agit pas d'une guerre, mais d'une lutte. Souvenons-nous du contexte de résister au diable, et il fuira loin de vous. Le verset, on le connaît bien dans Jacques, chapitre 1er, verset 7. Mais c'est intéressant de le lire dans son contexte. Alors j'aimerais qu'on reprenne ce passage et on ouvre nos Bibles dans Jacques chapitre 4 et on va lire à partir du verset 1er. Jacques chapitre 4, verset 1er, pour voir dans quel contexte le verset 7 survient. Jacques chapitre 4, verset 1er. Non, ça vaut la peine d'amener une Bible hein, le dimanche matin. C'est pas parce qu'il y a les versets dans le bulletin et puis de temps en temps, vous voyez, là, le verset n'y est pas, hein. Ah mince, si j'avais su, j'aurais amené ma Bible pour la prochaine fois. Jacques chapitre 4, verset 1er. D'où viennent les luttes? Notez bien, lutte. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dans ce contexte, il est parlé de lutte, de querelle, de combat. Et au verset premier, l'apôtre Jacques nous dit, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Et là, il est question de combat, mais ce combat, il est dans nos membres. Il est en nous. Et d'où vient-il ce combat? Il vient des passions, il vient de la jalousie, il vient de l'orgueil, il vient de mauvais désirs. Et la solution que Jacques donne, c'est soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Mais techniquement parlant, concrètement parlant, pour être précis ce matin, ça veut dire quoi résister au diable? Regardez 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Je ne pense pas que le verset soit dans le bulletin, mais prenez-le dans la Bible, tournez dans la Bible avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 et 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On va s'arrêter là déjà. Et là, c'est sûr que quand on prend juste ce verset, nous avons des armes spirituelles pour renverser des forteresses. Et quelqu'un se dit, mais là, c'est ça l'armée, c'est ça l'armure, c'est ça le combat. C'est ça les livres sur le combat spirituel. Nous avons des armes puissantes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont là pour renverser des forteresses. Mais la question à se poser, c'est quoi ces forteresses? Est-ce que c'est le ballon du diable? Certains diront, on va aller là où est le diable, savoir où est le prince de la ville de Drummondville. Il faut connaître son nom, il y a toutes sortes de théologies sur des affaires comme ça. Pour dire, il faut identifier, il faut connaître la forteresse. Est-ce que ce n'est pas un mot qu'on utilise aussi chez les motards, la forteresse, là? Non? Alors, ils ont leur forteresse, et quand on sait où est leur forteresse, leur bunker, là, on va pouvoir y aller, les défier, et puis terrasser nos adversaires, si c'est nos adversaires. Hein. Je ne vous le souhaite pas. Mais pour dire que, en ce qui concerne les forces du mal, des fois on veut identifier une forteresse et de dire on va aller attaquer cette forteresse, nous emparer cette forteresse, et anéantir notre adversaire. Il est déjà vaincu. Vous en souvenez pas? Il est déjà vaincu. On n'a pas de forteresse à prendre. On n'a pas de ville à terrasser. Regardez dans le contexte ce qu'est la forteresse. Nous avons des armes qui ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qu'ils s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'apôtre Paul dit clairement, les forteresses, ce sont les raisonnements. Les raisonnements, ce qu'il y a dans la tête. Les raisonnements, les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est une lutte dans nos pensées. Est-ce que vous me suivez? Le combat est un combat intérieur, est une lutte à l'intérieur. Dans Éphésiens chapitre 6, où on parle là de lutte, il est question d'armes spirituelles, il est question du bouclier de la foi, par lesquels on peut éteindre les traits enflammés du malin. Et quels sont ces traits enflammés du malin? Ça peut se résumer en une seule phrase, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce que le diable va dire à Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? Et de la même manière encore aujourd'hui, il utilise ces mêmes flèches, ces mêmes traits enflammés, en disant ce matin, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il fallait faire ceci et cela? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a fait la promesse qu'il allait se passer quelque chose dans ta vie? Dieu a-t-il réellement dit? Le diable, c'est un menteur. Et il amène le doute. C'est le père du mensonge, nous dit Jésus. Et son but, son objectif, c'est de nous détourner de la connaissance de Dieu en venant amener l'erreur, le doute et le mensonge. Dans ce même contexte d'Éphésiens 6, alors qu'il n'y a que des armes défensives, il y a une arme offensive, une arme d'attaque. C'est l'épée. L'épée de l'esprit. Et que nous dit l'apôtre Paul concernant l'épée de l'esprit? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'on réalise ce matin que notre arme absolue contre le mensonge, c'est la vérité. L'arme, vous allez dire que ça, c'est pas compliqué à dire, hein? L'arme absolue contre le mensonge, c'est la vérité. Il faut qu'on le réalise de manière spirituelle ce matin. Que lorsque le diable vient pour nous mentir, Lorsque le diable vient pour mentir à Jésus dans ce désert et qu'il vient pour le tenter, l'arme absolue contre le mensonge, c'est la vérité. Nous sommes dans un monde de mensonges où il y a toutes sortes de mensonges et le diable veut nous faire croire toutes sortes d'affaires à tel point qu'on ne sait plus où est le vrai et où est le faux. Même Dieu nous annonce que dans les derniers temps, on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Allez, mais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Comment savoir ce qui est correct? Comment savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas? C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17, Jésus peut dire « Ta parole est la vérité ». Ta parole est la vérité. Le meilleur moyen de nous défendre contre notre adversaire, c'est d'avoir la vérité. C'est de serrer la vérité. Selon le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vous savez, le diable, c'est le tentateur qui veut nous amener, en fait, tout simplement à nous éloigner de Dieu. La volonté du diable, le but du diable, ce n'est pas forcément que vous soyez le pire des voyous, le pire des bandits, pas forcément que vous tombiez dans toutes sortes de travers honteux, de toutes sortes de vices et de passions. Le but du diable, d'une manière plus générale, ce n'est pas forcément que vous soyez le plus méchant des hommes. Le but du diable, c'est de vous éloigner de Dieu. Et pour certains, il va les éloigner de Dieu en les emmenant dans le mal absolu. Et pour d'autres, on peut éloigner quelqu'un de Dieu en lui faisant faire du bien. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un dira, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis un homme bon. Je suis un homme bien, correct. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas un voyou. Moi, je gagne mon ciel par mes œuvres. Comprenez que le diable, lui, son seul objectif, c'est de nous séparer de Dieu, de nous éloigner de Dieu. Et dites-vous bien que votre adversaire, vous n'avez pas oublié que c'est votre adversaire aussi, que votre adversaire a pour mission, et c'est son ambition, c'est de vous éloigner de Dieu par toutes sortes de moyens possibles. Ça peut être par des trappes, des pièges, gros comme une maison. Ça peut être par toutes sortes d'affaires où c'est évident que ça ne vient pas de Dieu. Par toutes sortes de passions, de vices, de choses qui vont vous amener dans un chemin qui ne conduit pas vers le ciel, ça c'est évident. Mais ça peut être aussi par d'autres petites choses, de la rancune, de l'amertume, en disant « Ah, moi dans l'église, il y a telle personne, je ne la supporte plus. Alors je ne viens plus à l'église. » Je ne viens plus à l'église parce que telle personne ne me sourit jamais. Comprenez qu'avec ce genre de petits raisonnements, personne ne se dit « je ne viens plus à l'église, je m'éloigne de l'église ». Ah oui, oui, mais je reste toujours fidèle à Dieu. C'est ce qu'on entend toujours, c'est vrai. On vit sur ses réserves. Vous savez, il arrive un temps où les réserves s'épuisent. Alors c'est sûr, il y en a qui ont plus de réserves que d'autres et ils peuvent vivre sur l'inertie. Il y a de la réserve, mais il arrive un temps où les réserves s'épuisent. Et ça devient dangereux. Et finalement, au bout de course, à cause d'une petite affaire qui n'a pas été réglée, ou d'une querelle, d'une lutte, qui n'a pas été réglée spirituellement, et bien finalement, le diable a gagné son affaire en séparant quelqu'un, non seulement de l'Église, mais de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça n'arrive pas? J'espère que ça n'arrive pas trop souvent, et on prie pour que ça n'arrive pas trop souvent. Mais qu'on soit conscient que notre adversaire, son seul but, c'est de nous éloigner de Dieu, de nous refroidir, de mettre des bâtons dans les roues pour qu'on n'avance pas vite. Souvenez-vous que la lutte, c'est ce combat pour mettre quelqu'un à terre, pour le terrasser, pour qu'il n'avance pas, pour qu'il ne puisse plus bouger de lui-même. Évidemment, quelqu'un qui ne bouge pas et qui est déjà en train de dormir et faire la sieste, ce n'est pas difficile de le mettre à terre et de lui garder les épaules sur le sol, il les a déjà, il est en train de dormir. Comprenez qu'il n'y a rien à faire. Mais quelqu'un qui avance, quelqu'un qui travaille pour Dieu, eh bien, le diable va essayer de l'arrêter. La parole de Dieu, c'est notre arme absolue. Et comprenez que le meilleur moyen de lutter contre les tentations, les pièges du diable, notre adversaire, c'est d'être enraciné profondément dans la parole de Dieu. C'est de connaître la Bible. C'est de lire la Bible. C'est de se nourrir de la parole de Dieu. Et ne sous-estimez jamais, au grand jamais, la puissance de la parole de Dieu dans votre vie. Que personne ne dise, oh, pas si important, vous savez, moi, je chante des cantiques. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Moi, je chante des cantiques. Moi, vous savez, j'écoute les émissions chrétiennes. Moi, j'écoute quelques prédications. Moi, je vais sur Internet, je prends quelques messages. Oh, ben moi, je téléphone de temps en temps à un chrétien. Et dire, hey, ça ne remplace pas la parole de Dieu, ça. Ce sont des compléments alimentaires, mais ce n'est pas la base. Comprenez, quelqu'un qui vivrait qu'avec des vitamines, ça ne suffit pas. Il faut manger aussi des bonnes choses. Quelqu'un dira, non, non, mais moi je suis très spirituel, je prie, et je prie encore. Et c'est la prière qui fait tout. Gloire à Dieu pour les temps de prière, c'est formidable. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu, il y a un problème. Vous me suivez? La prière sans la parole de Dieu, ça vous mène où? La parole de Dieu, c'est notre lumière sur le sentier. La parole de Dieu, c'est notre épée. La parole de Dieu, c'est la vérité qui nous permet de ne pas aller dans l'erreur et le mensonge. La parole de Dieu, c'est une protection pour nous, comme une barrière pour nous empêcher de tomber dans un précipice. C'est important de lire la Bible, de connaître la Bible. Jésus s'est défendu contre le diable alors qu'il était tenté dans le désert par la parole de Dieu. Et de la même manière, aujourd'hui encore, c'est cette parole de Dieu qui nous donne le pouvoir de dire non. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir. Parole de Dieu donne un pouvoir, j'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Comprenez que la Bible, c'est important. Et je vous encourage vraiment à lire la Bible, à la méditer, à la repasser, à la serrer sur votre cœur. Et si quelqu'un ce matin se sent faible en disant « mais j'ai l'impression que les tentations du diable, les passions, les convoitises et tout ce combat qu'il peut y avoir dans mes pensées, c'est avant tout une question de pensée parce que le diable est déjà vainqueur. Mais il veut nous faire croire qu'il ne l'est pas. » Il est vaincu, j'ai dit vainqueur moi. Le diable est déjà vaincu, mais il veut nous faire croire qu'il ne l'est pas. Et vous savez, l'arme du diable, c'est la persuasion. Arriver à vous persuader, mais du mensonge. Vous me suivez? Et la force de la persuasion, c'est énorme. Il y a des gens qui font des fois toutes sortes d'affaires parce qu'ils sont persuadés que... Et pourtant, ils se sont trompés. Il y en a qui se sont persuadés qu'il y a un problème à un endroit et qui vont essayer de faire toutes choses pour régler ça. Puis en bout de course, ils se rendent compte, je me suis trompé. Mais sur le moment donné, cette persuasion, cette force de la persuasion les a amenés à faire toutes sortes d'affaires. Est-ce que vous me suivez? Et le diable veut nous persuader de choses qui ne sont pas. Le diable veut nous persuader qu'il a une autorité sur notre vie. Le diable veut nous persuader qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Le diable veut nous persuader que c'est lui qui commande. Mais quand on lit la Bible, quand on se nourrit de la parole de Dieu, on dit, il y a un problème là. Tu es un menteur. Ça ne marche pas comme ça. Tu es déjà vaincu. Tu as été destitué. Tu n'as plus aucune autorité. Nous sommes ceux qui sont en Jésus-Christ. Le diable n'a plus aucune autorité sur nous. Mais la force de persuasion, ne nous laissons pas intimider. Vous avez remarqué que rien qu'avec le ton, on peut intimider quelqu'un. Si, je suis sûr que si vous faites l'expérience, mais ne le faites pas, hein, Mais on va sur le marché où on arrive l'air assuré. Prenez quelqu'un qui est sûr de lui, qui arrive, qui dit « Hey, vous, venez ici !» Moi ? Je dis, c'est qui, lui ? C'est un policier en civil ? Non ? Si quelqu'un là, comme ça, vous appelez, hey, toi, vas-y. Comprenez que rien qu'avec le ton, on dit, ouh. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il rôde comme un lion rugissant. Mais il ne fait que rugir. Ça peut faire peur, un lion qui rugit. Mais quand on sait qu'il ne peut que rugir, vous savez, comme le lion qui rugit, c'était pour les films, là. Ouais. Vous savez, un lion qui rugit comme ça, ce n'est pas parce qu'il fait peur, c'est parce qu'il a faim. Non, c'est vrai, il suffit d'étudier. Vous allez dire, ça fait peur quand même. Si... Non, il baille, il a faim. Bon, qu'importe. Mais comprenez que le diable essaye de nous intimider, de nous faire peur. Mais quand quelqu'un nous appelle, qui dit, « Hey, toi, viens ici, fais ceci, fais cela. » Tu dis, « Hey, t'es qui, toi, pour me donner des ordres, là ?» Hein? Mais si on ne connaît pas la personne, puis si on se dit, ben, je ne sais pas trop, peut-être quelqu'un ne connaît pas, et peut-être mon patron qui l'a envoyé, ceci, cela, peut-être dans la police, et peut-être un agent secret, peut-être pas. Et puis finalement, on se laisse manipuler par toutes sortes d'erreurs et de mensonges. Mais quand on a la vérité, on sait que là, c'est de la supercherie. Et on dit non. Il y a beaucoup de voyous en France qui arrivent à faire toutes sortes de mauvais coups en se déguisant en policier. Ils arrivent, un coup qui était très célèbre avant qu'on arrive au Québec, puis dans l'église, il y avait déjà une ou deux personnes qui s'étaient fait avoir comme ça. Généralement, on attaque des gens plus faibles, des personnes âgées. Vous avez un plombier, pas que les plombiers sont tous méchants, hein. Vous avez un plombier ou quelqu'un qui vient travailler dans la maison, puis qui dit, voilà, je viens vérifier, ou il paraît qu'il y a une fuite de gaz, ou je viens vérifier les fuites. Il est là, bon, la petite dame, elle dit, bon, là, il travaille, il regarde le compteur. Et puis juste à ce moment-là, vous avez deux policiers qui sonnent à la porte, et qui disent, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là chez vous? Ben si, justement. Puis ils l'attrapent, ils mettent les menottes devant la personne, ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe? J'avais quelqu'un chez moi. Mais sauf que c'est des complices, les deux policiers, oui. Et puis que les deux policiers le mettent, puis qu'après, ils disent, ma petite dame, heureusement qu'on est arrivé là. Dites-moi, tout est là, votre argent? Vos économies, elles sont où? Est-ce que vos économies sont là? Il faut vérifier que votre argent est bien là. Petite dame, elle va sous son matelas, elle vérifie, elle montre au policier. Bon, il faut qu'on amène ça au poste de police pour venir récupérer ça ce soir, là, pour la déclaration. Vous comprenez que ça, c'est du mensonge. Mais on se fait avoir. Mais le diable, bien souvent, nous ment dans bien des domaines. Et on se fait avoir. Et comment ne pas se faire avoir par les mensonges du diable avec la vérité? Et quand on lit la Bible, quand on s'imprègne de la Bible, quand on laisse la parole de Dieu venir conduire notre vie, on peut dire au diable, ce que tu dis n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Tu veux me faire croire que je n'ai pas le choix, mais j'ai le choix. Parce que toi, tu es déjà vaincu. Jésus nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « La vérité, vous connaîtrez la vérité. » Et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Comprenez, on était esclaves avant. Et on est devenu libre. La vérité nous affranchit. Imaginez que quelqu'un soit esclave, mais ne sait pas encore que l'esclavage a été aboli. Et que son maître profite toujours en disant, toi, t'es qu'un esclave. Mais il y a une loi qui est passée dans le pays où il n'y a plus d'esclaves, où l'esclavage a été aboli, mais il ne le sait pas. Et tant qu'il ne sait pas que, tant qu'il ne connaît pas la vérité, il reste dans son esclavage. Mais la vérité nous affranchit. Et de la même manière, il y a bien des hommes et des femmes qui restent dans l'esclavage, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Qu'on puisse dire, Seigneur, enseigne-nous la vérité encore. La vérité vous affranchira. Et puis au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, Jésus, c'est la parole, c'est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je veux finir avec cette déclaration. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Et réellement, ça veut dire véritablement. C'est sûr, c'est assuré, c'est certain. C'est pas un, il n'y a pas de cinéma. C'est pas une tromperie. Vous serez réellement libre. Et si quelqu'un ce matin se dit, moi j'ai besoin de liberté, j'ai besoin que ça change dans ma vie, j'ai besoin d'être affranchi, j'ai besoin de vivre, de marcher dans la sainteté, dans la pureté, et il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie, et puis j'y peux rien. Hey, tu te fais avoir, abuser par le diable qui utilise une persuasion basée sur l'erreur et le mensonge. Qu'on puisse venir auprès de Dieu et dire, Seigneur, enseigne-moi la vérité. Montre-moi, révèle-moi. Je n'ai pas besoin de savoir comment Goliath travaille son effet, mais montre-moi avec certitude, montre-moi avec autorité qu'il est déjà vaincu et qu'il y a une victoire, un triomphe pour chacun d'entre nous ce matin. Et qu'on puisse dire, Seigneur, tu es celui qui dit que nous sommes réellement libres. Et peut-être quelqu'un dira, mais moi ce verset, il me décourage parce que ça fait des mois ou des années que je combats et que je lutte contre telle ou telle chose dans ma vie et je ne m'en sors pas. Ce n'est pas compliqué. La parole de Dieu est la clé. Le meilleur moyen, le meilleur remède, c'est de méditer cette parole, c'est de la lire, c'est de s'en imprégner. De la même manière, je prends une autre image, peut-être pour que les choses soient plus claires. Quand quelqu'un a besoin de guérison dans sa vie, et quand quelqu'un se dit, moi j'ai besoin d'un miracle, j'ai besoin d'une guérison dans ma vie, mais j'ai du mal à y croire. Le meilleur moyen pour y croire, c'est de lire la Bible, c'est de te nourrir de tous ces miracles qu'il y a, qui ont lieu dans la Bible. C'est de voir l'amour, la compassion du Père, Jésus ému de compassion pour tel malade et tel malade. C'est de dire, mais quand on réalise, quand on comprend qui est Dieu, quelle est la grandeur de son amour, ce que Jésus a accompli pour nous, ça vient fortifier notre foi. La foi vient de la parole de Dieu. Et ça nous permet de nous saisir des promesses. De la même manière, si quelqu'un a besoin de liberté, quelqu'un a besoin de dire, moi, il faut que ça change dans ma vie, il y a des choses là qui ne sont pas correctes et je me sens esclave. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui a franchi ce matin encore. Et qu'on puisse s'approcher simplement de Dieu et dire, Seigneur, que ta parole puisse encore me libérer, vous serez réellement libre. En conclusion, je vous rappelle juste Ésaïe chapitre 40. Vous connaissez ce passage, je vais inviter Marie-Paul au piano. Ésaïe chapitre 40, où on retrouve le même contexte, à partir du verset 31. À partir du verset 27, pardon. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. En d'autres termes, pourquoi chiales-tu, mon grand? On dit mon grand au Québec? Mon gars. Pourquoi est-ce que tu te plains en disant, Seigneur, tu m'as pas vu? Seigneur, tu m'entends plus? Seigneur, je crie à toi et il se passe rien. Et voilà ce que Dieu répond. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Et Dieu nous ramène à ce que l'on sait, à ce que l'on a appris, ce qui est au plus profond de nous-mêmes, et nous rappelle ce qu'on a oublié peut-être. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Jésus dira aussi, ne t'ai-je pas dit? Est-ce que je te l'ai pas déjà dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ici au verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse pas, on ne peut sonder son intelligence, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Et qu'on puisse ce matin revenir peut-être à ce que l'on sait depuis longtemps et qu'on a oublié. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de la parole. Reviens à la parole. Parce que c'est de cette parole que tu trouveras la force, que tu trouveras la puissance, trouveras la liberté, trouveras l'arme absolue pour résister au diable. Et c'est le diable qui fuira devant toi. Et si le diable fuit devant toi, ce n'est pas parce que toi tu lui fais peur, mais c'est parce que tu as entre les mains une puissance qu'il a déjà terrassée. Et il sait qu'il n'a aucun pouvoir devant toi. Est-ce qu'on est conscient de ces choses? Nous n'avons pas à rentrer en guerre contre le diable, mais nous avons à lutter contre ses mensonges, contre ses doutes et contre ses tentatives d'abus où il veut nous persuader de toutes choses mauvaises et lui dire simplement « Non, ce que tu dis n'est pas vrai, parce que je connais la vérité. » Mais si tu ne connais pas la vérité, tu es en danger. Instruis-toi, enseigne, sois enseigné, médite la parole de Dieu et dire « Seigneur, donne-moi de comprendre davantage ta parole, je veux la serrer sur mon cœur. » Et si tu ne lis pas la Bible, commence à la lire, c'est important. Lis la Bible et quand tu lis la Bible, dis « Seigneur, parle-moi, montre-moi et que cette parole soit pour moi une force, un pain quotidien qui me donne la capacité, la force de dire non au diable et pouvoir lui dire ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas vrai. Parce que moi j'ai lu ce matin, parce que moi j'ai lu, parce que Dieu m'a dit que tu étais déjà vaincu et que j'avais en lui le pouvoir d'aller jusqu'au bout. » Amen. On va prier ensemble. Seigneur, il est bon d'être dans ta présence ce matin encore. Savons que nous avons un adversaire. Et nous savons que toi, tu es avec nous. Et qu'à la croix du calvaire, tout est accompli. Que notre adversaire a déjà été terrassé. Et ce n'est qu'un menteur. Seigneur, que ta parole encore puisse amener de la conviction dans les cœurs.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.